RFI 9h30, à Paris 7h30, en temps universel. Un nouveau journal avec vous, Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, la journée mondiale des réfugiés en ce 20 juin, comme tous les ans. Et à cette occasion, on fera un point de situation sur le continent africain qui abrite des millions de personnes qui se trouvent, dans ce cas, des millions de personnes qui ont tout quitté pour se reconstruire ailleurs. Que contient au juste l'accord préliminaire de paix signé mercredi à Washington par la RDC et le Rwanda? On fera le point également dans ce journal avant la signature attendue des ministres des Affaires étrangères la semaine prochaine. Une lettre ouverte au Cameroun, rédigée par 8 personnalités du sud du pays qui appellent à tourner la page Paul Biya après 43 ans de pouvoir. Un verdict hier à Bangui en Centrafrique, celui de la Cour pénale spéciale dans l'affaire dite Ndélé 2. Une violente attaque au Niger, dans la région de Tillabéri également au sommaire. Et puis des scènes bien plus légères, les scènes du festival Gnawa qui s'est ouvert hier à Essaouira au Maroc. Ils sont plus de 42 700 000 à travers le globe et comme tous les ans depuis 2001, la date du 20 juin marque la journée internationale qui leur est consacrée, la journée mondiale des réfugiés. C'est donc aujourd'hui, sur le continent africain uniquement, ils sont 8 à 10 millions selon les Nations Unies, Eva Massi.
C'est en Afrique de l'Est que l'on trouve le plus grand nombre de réfugiés sur le continent. L'Ouganda accueille à lui seul environ 1,7 million de réfugiés, ce qui en fait le premier pays d'accueil en Afrique et le troisième au monde. Le Tchad est devenu en 2024 le deuxième pays d'accueil du continent et héberge plus d'1,2 million réfugiés, juste avant l'Éthiopie, troisième pays d'accueil, qui en héberge un peu plus d'1 million, principalement venant du Soudan du Sud, de la Somalie et de l'Érythrée. Les causes de départ sont multiples et interconnectées, mais les conflits armés et les violences restent la principale cause. Le Soudan du Sud, le Soudan, la République démocratique du Congo et la Somalie comptent parmi les plus grands pays de départ. Mais dans la région du Sahel aussi, l'instabilité a provoqué une hausse des réfugiés, leur nombre ayant triplé entre 2020 et 2024 et atteignant plus de 650 000. Maliens, Burkinabés et Nigériens ont fui principalement en Mauritanie, au Togo et en Côte d'Ivoire. Une tendance se confirme, 67% des réfugiés restent dans les pays voisins de leur pays d'origine et plus de la moitié sont des enfants, souvent confrontés à la malnutrition, aux violences ou sans accès à l'éducation.
Eva Massi, un pas effectué sur le long chemin qui mène vers la paix dans l'est de la RDC. On vous l'annonçait hier sur RFI, un accord préliminaire a été signé mercredi à Washington par les négociateurs de la RDC et du Rwanda, réunis par la diplomatie américaine. Prochaine étape, désormais la signature officielle du texte par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. À Washington, toujours, dans une semaine, tout juste, le 27 juin. Cela avant une signature envisagée au niveau des chefs d'État, peut-être le mois prochain. Mais pour l'heure, en tout cas, que sait-on de ce qui a été signé mercredi? Que contient le texte exactement? Élément de réponse ce matin sur RFI avec Patient Ligaudy.
Les Américains insistent sur un point, la cessation des hostilités. C'est la première disposition du texte qui sera présentée au ministre des Affaires étrangères. Autre point majeur, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Ce mécanisme doit être opérationnel dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Sa mission, identifier, localiser et neutraliser les éléments armés des FDLR. Les deux parties doivent coopérer pour vaincre ces groupes armés et leurs affiliés. Le texte évoque aussi la nécessité de conclure les négociations entre le gouvernement congolais et la FCM23 avec la participation de ces groupes à un dialogue intercongolais. Changement notable, le document publié ne reprend plus certains préalables contenus dans la précédente version. Sur le plan économique, Kinshasa et Kigali s'accordent à lancer ou étendre leur coopération. Objectif, sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais et mettre en place des chaînes de valeur transparentes et formalisées en partenariat si nécessaire avec les États-Unis et les investisseurs américains. Enfin, la signature de l'accord ne réunira pas uniquement Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Donald Trump. Un sommet plus large est prévu avec la participation d'autres chefs d'État africains comme témoin ou garant.
Patient Ligaudy. Tournez la page Paul Biya et ses 43 ans de pouvoir au Cameroun. Ça, c'est l'appel qui est lancé dans le sud du pays, région natale du président, lancé par des personnalités qui publient une lettre ouverte appelant à sanctionner le chef de l'État dans les urnes en octobre prochain lors de l'élection présidentielle pour laquelle, rappelons-le, Paul Biya n'a toujours pas précisé ses intentions, mais il est présenté bien sûr comme le candidat naturel du parti au pouvoir, le RDPC. Correspondance, Polycarpe Samba.
Les signataires, au nombre de 8, sont pour l'essentiel des universitaires, des hommes et des femmes, tous issus de la région du Sud Cameroun. Dans cette région présentée comme bastion imprenable du président Paul Biya et où il a toujours fait le plein de voix avec des scores de 100%. La lettre de 4 pages est adressée aux populations de la région. Elle dresse un bilan sans concession des réalisations du pouvoir du président Paul Biya au bénéfice des siens. Et tout y passe, de l'état des routes jugées désastreux, des localités sans électricité, le chômage des jeunes diplômés, etc., etc. Les signataires exprime aussi un ressenti plus personnel sur le président Paul Biya, qui envers les siens n'aurait entretenu qu'une relation faite de condescendance et de distance. Qui se souvient d'un seul meeting tenu par Paul Biya dans une quelconque localité du Sud, interroge-t-il. Conséquence, les 8 appellent les électeurs et électrices du Sud à saisir l'opportunité de la présidentielle d'octobre 2025 pour se libérer de la servitude d'un pouvoir qui les prend en otage, écrivent-ils, et appellent ouvertement à l'avènement d'un nouveau pouvoir. Elle fait également le bonheur de l'opposition qui la reprise à son compte. Dans les rangs du pouvoir, pas de réaction officielle jusqu'ici, même si certains évoquent en privé des propos qu'ils qualifient de surenchère électoraliste. Polycarpe Somba Yaoundé, RFI.
C'était le troisième procès dans l'histoire de la Cour pénale spéciale mise en place en Centrafrique. Cette cour, créée en 2015, inaugurée en 2018, elle est composée de juges nationaux et internationaux et elle a prononcé hier de lourdes condamnations dans l'affaire dite Ndélé 2. Les faits remontent au mois de mars 2020 à des affrontements dans la ville de Ndélé, dans l'Est, entre deux factions du Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, le FPRC, des combats ayant provoqué des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. À Bangui, Rolf Stevdomiale.
Sur les 7 accusés mis en examen, seulement 3 avaient été arrêtés entre 2020 et 2023. À l'issue des 7 mois de procès, la cour a acquitté l'un d'entre eux, à savoir Oumar Serge Abdoulaye Hassana. Les deux autres, Adraman Seliman alias Ada et Amat Younous alias Mahamad Encadreur, ont été coupés de 20 et 18 ans d'emprisonnement ferme. Maître Albert Panda, avocat de la partie civile, apprécie ce verdict.
Le droit a été dit. Aujourd'hui, la justice a déterminé les coupables, a déterminé les auteurs. Ils ne sont pas tous là, mais je peux dire que pour les victimes, ça va amener au moins un apaisement. Mais ce n'est pas fini puisque le président de la Cour a indiqué que nous allons nous retrouver après pour des audiences qui vont concerner les réparations.
Les 4 autres accusés sont toujours en fuite. Jugés par contumace, 2 sont condamnés à 25 ans et les 2 autres à 20 ans. Maître Benoît Sarasenge, l'un des avocats de la défense, conteste cette décision.
On a décrié l'absence de preuves qui démontrent la suffisance que nos clients ont posé l'acte de manière personnelle. La section d'assises a condamné mon client à 20 ans d'emprisonnement. Il y a les voies de recours, on ne va pas baisser les bras. Jusqu'à ce jour, aucune preuve n'a été présentée comme quoi il a posé un tel acte criminel pour lequel il doit époper 20 ans d'emprisonnement.
La défense entend faire appel du jugement. Rolf Estève Domiale, Bangui, RFI.
La situation sécuritaire préoccupante au Niger avec une nouvelle attaque hier à Bani-Bangou, une ville de l'ouest du pays située à quelques 250 km de la capitale Niamey. C'est dans la région de Tillaberi. Selon des sources locales et sécuritaires, les assaillants ont réussi à attaquer cette localité pourtant bien sécurisée avant de se retirer en direction de la frontière malienne toute proche. 34 soldats ont été tués, 14 blessés selon le ministère nigérien de la Défense. Le commandant en chef de la position militaire de Bani Bangou aurait également été tué. Des combats d'une rare violence, Magali Lagrange.
Bani Bangou s'est réveillé hier au son des détonations et des crépitements d'armes automatiques. Après de violents combats, la localité est occupée par les assaillants, de la fumée visible au-dessus des locaux de la préfecture, pillée, incendiée avant l'arrivée de renforts. L'opération attribuée au groupe État islamique au Sahel, active dans cette zone, est complexe. Des assaillants venus du sud et du nord-est de Bani Bangou prennent en étau sur deux fronts les camps de la garde nationale, la préfecture et les positions de la gendarmerie et de l'armée. De sources sécuritaires, les positions militaires de la zone avaient été alertées de l'imminence d'une attaque. La veille, des colonnes de motos lourdement armées avaient été aperçues à la frontière malienne, se dirigeant vers Bani Bangou, première préfecture après cette frontière. Cette zone du Niger avait déjà été meurtrie début 2020. 2 importants postes militaires avancés avaient alors été détruits par une attaque de l'État islamique à Chinagodar et Inates. Plus de 200 soldats avaient été tués.
Et notons, Magali Lagrange, que le ministère de la Défense nigérien précise que des dizaines de terroristes ont également été tués dans la riposte. Une réunion attendue à Berlin aujourd'hui, réunion du comité international de suivi de la situation en Libye, réunion technique en présence des États-Unis qui vise à relancer le processus politique. Le conflit libyen a été relégué au deuxième rang d'importance avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, puis au Soudan, puis à Gaza. La réunion est tout de même maintenue en dépit de la situation au Moyen-Orient. Le comité de suivi doit également se pencher sur la situation sécuritaire à Tripoli, en proie à de nouvelles tensions depuis mai dernier. Des terrains beaucoup plus légers avec la 26e édition d'un festival qui est devenu mythique au fil des ans. Le festival Gnawa qui s'est ouvert hier à Essaouira au Maroc. Cet événement dédié à la culture Gnawa et ses traditions séculaires portées par des artistes d'horizons différents. Le concert d'ouverture sur la grande scène Moulay Hassan a ainsi réuni le Maroc et le Sénégal hier. Notre envoyé spécial Guillaume Thibault était évidemment au rendez-vous.
Sourire, embrassade et la sensation de voir de vieux cousins se retrouver. Venus de Casamance, les percussionnistes et les danseurs de la compagnie Bakalama, dirigée par Malal Ndiaye, ravis de la fusion avec les artistes locaux.
C'est des émotions très fortes. Moi, je pensais jamais, en quittant le Sénégal, qu'on peut vraiment cette musique du Sud le mettre directement avec cette musique marocaine. J'y pensais pas. C'est très puissant.
Avec le festival Gnawa, c'est le puissant Mahalem, Hamid El Kassri, qui est à l'origine de cette création unique, avec la volonté de retrouver les racines du continent africain.
La musique transmet ce qui est bon, c'est aussi un moyen pour rencontrer d'autres cultures, c'est notre langue commune. Si je n'avais pas ce partage, je n'aurais pas de plaisir dans ma vie.
Un plaisir partagé sur scène avec la chanteuse sénégalaise Kialoum. Comme un père et une fille, ces deux-là s'amusent tout en offrant au public du festival Gnawa, en liant l'arabe et le wolof, une prestation hors du commun, de haute volée.
La musique pour moi c'est l'amour. Pour moi l'amour c'est le don de soi, être là pour les sans voix et chanter leurs mots. Pour moi la musique c'est la vie tout simplement.
Guillaume Thibault et Essaouira, RFI.
Et c'est donc au son des Gnawa que se referme ce journal. Mais la matinale continue bien sûr sur RFI. Vous retrouvez Julien Coquelle-Rohem.